Eh bien, bonsoir à chacune et chacun pour cette étude biblique, finalement, cette lecture biblique. Peut-être que le sujet peut paraître un peu abstrait, un peu théologique, un peu difficile, avec la question, donc, cette foi peut-elle sauver le débat entre l'apôtre Paul et Jacques sur cette question de la foi et des œuvres, finalement. Est-ce que c'est les œuvres qui nous sauvent, c'est-à-dire il pourrait y avoir cette compréhension-là, par exemple, le point de vue que nous pensons sur le salut tel qu'il marche chez les Juifs ou chez les musulmans, peut-être, je ne sais pas. C'est-à-dire que voilà, il faut faire tout un tas de bonnes œuvres et finalement, à la fin de sa vie, on est noté sur les bonnes œuvres, les mauvaises œuvres. Alors, si on a la moyenne, on passe. Et si on n'a pas la moyenne, on ne passe pas. Alors même ça pourrait se... Donc ça, c'est le salut par les œuvres, dans un sens. Il faut faire son paradis avec des bonnes œuvres. Alors même, si on pourrait compléter avec les bouddhistes, c'est vrai que dans l'idée de la réincarnation, il faut avoir finalement mérité, finalement arrivé à travers sa sagesse, à travers sa façon de vivre, façon d'être. Il faut effectivement avoir la moyenne pour aller à l'illumination, pour aller au paradis. Alors, sauf que chez eux, on peut redoubler. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas la moyenne, eh ben, on est en terminale. C'est ce que vous pratiquez tous les jours dans votre enseignement. C'est-à-dire, voilà, normalement... Donc, la réincarnation, c'est ça. Pour les bouddhistes, c'est finalement un peu une malédiction, hein. Tant qu'on n'a pas suffisamment de bonnes notes pour mériter cette libération, ben on redouble, et il y a une sorte de fatalité comme ça, on est pris dans cette matière. Pardon ? Ah voilà, oui. Ah oui, alors ça, qui note ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, qui note ? Alors peut-être que dans la façon... je dirais, dans l'imaginaire chrétien, musulman et juif, dire... Alors, je ne dis pas que c'est les théologiens qui disent ça, si vous voulez. C'est plutôt la vision que l'on s'en fait. Mais on qui sait aussi, c'est personne et c'est tout le monde, si vous voulez. Ben, ce serait, par exemple, un dieu un peu terrible qui serait là avec un grand cahier, on est accueilli, ou alors des fois, c'est Saint-Pierre, on est accueilli à la porte du paradis, comme beaucoup de blagues qui sont racontées. Ouais. Il y a des tas de blagues assez drôles avec Saint-Pierre qui accueille au paradis pour savoir... Donc c'est un peu ça. Alors il y a un grand livre, on dit, voyez voir quel est votre nom, votre matricule, on regarde, on dit, ah là il y a quand même un, bon, oui, non. Et donc c'était un peu l'idée, si vous voulez, d'un jugement avec des notes, on juge en fonction des bonnes œuvres, des mauvaises œuvres, on fait un bilan, on passe, on passe pas. Ça peut être l'imaginaire d'un certain nombre de gens. L'autre possibilité, c'est gratuit, tout le monde est bienvenu, comme dirait Coluche, on ira tous au paradis. Et ça s'appelle l'apokatastase en termes grecs, c'est-à-dire que voilà, tout le monde est sauvé, c'est par grâce, Dieu aime chacun, et donc on est tous sauvés comme ça craque. Il y a intermédiaire, il y a le salut par grâce, Dieu offre le salut gratuitement, il faut s'en saisir par la foi, l'attraper par la foi, et donc c'est un peu entre les deux, parce que dans un certain sens, la foi est à ce moment-là une façon de se saisir de ce salut. Et la foi est un peu comme une œuvre, mais c'est une œuvre, comment dire, spirituelle. Voilà, le salut, de toute façon, on ne peut pas mériter la moyenne, on ne peut pas mériter ce cadeau infini, immense. Il faut simplement dire, oui, je le veux, et à ce moment-là. Alors c'est ça qui est derrière, si vous voulez, ce débat. Quelle est la justification? Comment est-ce qu'on est déclaré juste? Ou alors, comment est-ce qu'on se saisit? Comment est-ce qu'on vit de ce salut qui est donné en Jésus-Christ, donné par Dieu en Jésus-Christ ou hors de Jésus-Christ? Ça, on peut débattre de ça. Et derrière cette question, si vous voulez, c'est souvent aux extrêmes qu'on peut juger pour un peu dramatiser cette question, si vous voulez. Si tout le monde est sauvé, ben, au paradis, on va croiser Hitler et Ben Laden. Si c'est vraiment le salut par grâce totale, c'est voilà. Si c'est le salut par les œuvres... Eh bien, le handicapé mental profond, lui, alors là, les œuvres, c'est un peu limite, alors lui, il n'a aucune chance, vous voyez. Ah oui, donc si vous voulez, aux extrêmes, c'est assez délicat. Voilà, hein, comment est-ce que cette chose-là marche? Et c'est vrai que l'enjeu est quand même important. Il y a des enjeux, donc, sur la façon de voir notre existence, la façon de se projeter dans son existence, dans cette motivation que nous avons à vivre bien, ou sur les questions éthiques, sur les questions spirituelles. Quel est notre rapport à Dieu? Est-ce qu'on est dans un rapport de jugement ou un rapport de grâce? Comment concevoir les autres aussi? Est-ce qu'ils sont des sauvés ou des perdus? C'est des dialogues qu'on aura beaucoup, si vous voulez, dans le dialogue interreligieux avec des musulmans, des juifs, des autres chrétiens. Ou... Voilà, c'est des questions quand même qui ne sont pas du tout négligeables. Et en plus, pour notre dialogue œcuménique, eh bien, c'était une des questions fondamentales à l'origine de ce schisme, finalement, si je puis dire, avec Luther. C'était la question, donc, de la justification à propos des indulgences, du commerce des indulgences, contre lequel s'est élevé Luther en particulier, mais il n'était pas le seul, pour dire non, non, on ne peut pas acheter son salut avec des sous, avec ce slogan qui était très la belle propagande à l'époque, quand votre or résonne dans le bassin, une âme s'envole du purgatoire vers le paradis. Donc c'est vrai que c'est contre ça que s'est élevé Luther. Il y a eu un schisme. Donc le pape l'a mis à la porte en 1521, 1522, je ne sais plus très bien. Lui, il a dit, puisque c'est comme ça, écoutez, vous me mettez dehors, je reste dehors, et ça a fait un schisme. Voilà. Alors théoriquement, cette histoire de schisme avec Luther, ça s'est terminé en quelle année? En 2000 ou je ne sais pas quoi, avec la déclaration commune sur la justification entre les luthériens et les cathos et l'Église romaine, pour dire la question de la justification est close, on est tous le salut, le pardon de Dieu est donné par grâce, gratuitement. La question, c'est de s'en saisir et d'en vivre. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Et donc, on est dans ce... Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dirais, Jérôme, par rapport à cette introduction, peut-être un peu...
Mais dans laquelle je me reconnais.
Le trait forcé, bien sûr,
mais
un peu.
C'est vrai que dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire des Églises, l'Église eschatologique, l'Église que nous formons tous les uns avec les autres, vers laquelle nous convergeons, l'Église est une promesse avant d'être une réalité historique. Elle est le rassemblement de l'humanité. Et dernièrement, d'ailleurs, Monseigneur Jérôme Beau, qui est venu à Saint-Eustache, qui est l'évêque auxiliaire du centre, rappelait que le mot catholique, évidemment, a été entaché dans la modernité, en particulier dans la modernité française, d'une signification particularisante, c'est-à-dire au moment des guerres de religion, je suis catholique parce qu'en face de moi, j'ai des protestants. Donc ça devient exclusif et identitaire. Et on parle beaucoup aujourd'hui du christianisme identitaire, qu'il soit d'ailleurs protestant ou catholique ou orthodoxe. Mais le mal est profond, il vient de très loin. Et c'est toute l'histoire des quatre derniers siècles qui est marquée par ce péché originel. Le mot « catho » est devenu d'universel qu'il voudrait dire. Et d'une certaine manière, les protestants devraient pouvoir l'utiliser, puisqu'il fait partie du patrimoine commun des chrétiens. Tout chrétien devrait pouvoir se dire universel, catholique. Et le mot est devenu effectivement identitaire et porteur d'une histoire clivante. Et donc, ça fait quatre siècles. Comme le rappelait Jérôme Beau, le mot catholique devrait vouloir dire homme, tout simplement. Non pas au sens d'une anthropologie la plus basse possible, mais au contraire, l'idée qu'il y a ce mystère d'un rassemblement qui s'opère dans l'humanité et qui converge vers ce qu'on peut appeler donc l'Église. Alors, dans l'histoire des Églises, c'est vrai que les schismes sont toujours liés à des malentendus. Ça a pu être des malentendus linguistiques au moment du Concile de Chalcédoine sur la double nature de Jésus. Il y a eu les monophysites qui tiraient plus du côté de Dieu, les nestoriens qui tiraient plus du côté de l'homme, mais eux aussi ont signé des accords dans les années 90, cette fois, avec les églises dites orthodoxes et
trinitaires,
donc byzantines et trinitaires, comme l'église catholique ou les églises protestantes. Et donc aujourd'hui, on relit l'histoire et on découvre que ces malentendus sont souvent liés à des querelles de culture, en fait. Alors, effectivement, tu as raison, la justification par la foi, c'est souvent quelque chose qui intimide, parce qu'on ne voit pas trop ce que ça recouvre. Or, ça a été, effectivement, chez Luther, puis chez Calvin, une des raisons de la séparation. Alors moi j'aime bien quand j'explique ça à mes élèves, la justification par la foi. Se justifier, ils savent ce que c'est, en plus comme c'est des adolescents. Donc c'est vrai que nous, si on s'observe un peu, on passe beaucoup de temps, on épuise beaucoup de salive et d'encre aussi, ou maintenant, voilà, à se justifier. Et d'ailleurs, on dit souvent à des gens dont on est très proche, mais arrête de te justifier, t'as pas besoin de te justifier, tu es toujours dans l'auto-justification, etc. On le sent très bien. Quand on se justifie dans un contexte, je sais pas, de querelle, c'est parce que simplement on veut montrer qu'on a la justice pour soi. Donc on veut montrer qu'on a fait des bonnes œuvres, d'une certaine manière, et qu'on est mal compris. Alors du coup, on ratiocine, on explique, on passe son temps à montrer que, d'une certaine manière, ce qu'on avait fait n'a pas été compris, mais que c'était méritoire et que ça devrait nous valoir une gratitude. Ça devrait nous valoir une forme de reconnaissance. Et évidemment, toutes nos frustrations humaines, d'ailleurs, dépendent souvent de ça. On est mal jugé, on est mal compris, et donc on se justifie. Et si on ne le fait pas, on le fait dans sa tête, ou sous la douche, ou dans sa salle de bain, ou dans son lit, le soir, on relit. Et bien c'est exactement ça, la justification par la foi. C'est-à-dire que quand on passe son temps à se justifier, on cherche des raisons de montrer qu'on est du bon côté. Voilà. Et en fait, devant Dieu, on est tenté de faire la même chose, sauf que devant Dieu, ça n'est pas possible. Parce qu'il y a une sorte d'infini qui nous sépare de lui. Et donc, tout ce qu'on peut faire valoir pour se prévaloir de ce qu'on a pu faire de bien et qu'on estime méritoire, ben tout ça, face à l'infini, c'est infiniment petit. Et d'une certaine manière, Luther dit, vous aurez beau faire des choses, vous aurez beau faire des chapelets, vous aurez beau payer des indulgences, vous aurez beau être gentil avec les gens, de toute façon, c'est pas ça qui va résorber l'abîme entre l'homme et Dieu. Et donc la justice, ça n'est pas vous et ça n'est pas votre auto-justification qui peut vous justifier aux yeux de Dieu. Vous ne pouvez pas vous justifier. Seul Dieu donne la justice. Seul Dieu est la source de la justice. C'est pas ce que vous allez faire, c'est de lui. Donc il inverse, et c'est extraordinaire. Alors il n'était pas le premier à le faire, puisque Augustin le disait, et puis saint Paul le fait. Et ça, je pense que, évidemment, les catholiques se sont focalisés là-dessus. Ils ont fait une lecture apologétique du coup de saint Jacques, qui semble dire le contraire de saint Paul. Mais en fait, saint Jacques ne dit pas le contraire. Saint Jacques, on va le voir, est un correctif. Saint Jacques entre dans la dialectique paulinienne et puis il corrige ce que les disciples de saint Paul ont trop tiré du côté de la grâce et de Dieu. Voilà. Donc il y a un équilibre, évidemment, il y a un rééquilibrage à trouver. On va lire le texte, c'est d'ailleurs très, très complexe. Mais la justification par la foi, c'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, nos œuvres ne peuvent pas nous rendre justes aux yeux de Dieu. Alors, c'est la grâce qui va nous justifier. Et cette grâce, pour qu'on en ait, parce qu'on ne sait pas si on l'a, c'est ça qui est extraordinaire. C'est le grand tragique de la modernité luthérienne aussi. C'est que, voilà, pour pouvoir ne plus être dans cette oscillation que Luther décrit très bien, est-ce que je suis sauvé, est-ce que je ne suis pas, etc. À un moment, il faut faire cet acte de confiance sublime qui est la foi. Et donc c'est la foi qui est le garant qu'on a la grâce. Alors, juste pour bien comprendre, il y a quatre mots. Moi j'ai fait un schéma, c'est une sorte de carré magique. Il y a quatre mots qui sont toujours pensés ensemble et en tension les uns avec les autres. C'est la grâce, c'est-à-dire le don qui vient de Dieu. La grâce, c'est le don de l'esprit. La grâce donne la foi. La foi confère la justice, donne la justice. Donc, la grâce donne la foi. La foi donne la justice, elle justifie. Et la justice donne le salut. Voilà. Donc, il faut avoir les quatre pour que ça marche. Ça part de Dieu et ça retourne à Dieu. Voilà. C'est théologal. La foi, la grâce donne la foi donne la justice, elle justifie. Et donc, et l'amour, parce que, évidemment, au centre du carré, il y a l'amour, mais on voit bien que tous ces penseurs hésitent à parler trop vite de l'amour, parce que l'amour, on peut en faire n'importe quoi. Donc, la grâce, la foi, la justice et le salut. Et évidemment, tout ça s'opère dans la charité, dans l'agapé. Voilà. Donc, je pense que c'est à la lumière de et de ces malentendus historiques et de cette pensée paulinienne qui cherche à montrer comment on peut être sauvé, parce qu'au fond c'est la question qui agite le cœur et l'inquiétude humaine, comment on peut être sauvé. Voilà. D'abord, pour être sauvé, il faut avoir besoin de l'être, d'une certaine manière. Il faut ressentir la condition humaine comme en perdition. Ce n'est pas évident. Ça a été peut-être évident pour Luther. C'est moins évident aujourd'hui, dans certaines strates de notre société, de notre culture, où les gens ne ressentent pas immédiatement. Alors, il ne faut pas non plus aller vers eux en leur disant « Mais si vous saviez à quel point vous êtes perdu, etc. » Voilà. Annoncer le salut, ça ne va pas de soi.
C'est peut-être la question de la dignité, finalement, qui est peut-être plus une question aujourd'hui qui est en rapport avec cette question. C'est-à-dire que, encore l'idée du salut, on s'imagine l'idée de la vie future. Est-ce qu'on a un ticket d'entrée pour le paradis ou non? Et c'est vrai qu'à la limite, ça, je crois que d'abord, ce n'est pas une question pour aujourd'hui et maintenant. On devrait se libérer de ça, dans cette confiance dont tu parlais peut-être. Et puis, à la limite, les gens s'en fichent un peu, parce qu'on a un peu peut-être le sentiment d'être peut-être pas immortel, mais en tout cas de freiner à quatre fers le vieillissement et l'idée de la mort. Mais je crois que c'est plus la question de la dignité. Et là, je crois qu'on rejoint plus vraiment la question de la Bible, qui n'est pas tellement celle de la vie future, qui est avant tout celle de la vie éternelle maintenant. C'est-à-dire de... Et la question de la dignité, je crois qu'elle est quand même importante. Et je crois qu'on peut toucher cette question-là. Parce que la justification, la justice, ce n'est pas la justice au sens du tribunal. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est digne, qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui est sauvé, c'est... Voilà, qu'est-ce qui... Je crois que la dignité, c'est peut-être un mot plus moderne pour dire tout ça.
Tout à fait.
Et pour le clochard dont personne ne connaît même le nom et qui est sur une bouche d'aération, une bouche de chauffage du trottoir, quelle est sa dignité finalement? Ou le débat qu'on va avoir forcément dans quelques mois sur la fin de vie. Est-ce que quelqu'un qui est en fin de vie, à quelques jours de sa mort, malade, en train de faire des bulles, est-ce qu'il a une vie digne? Est-ce qu'il a une existence digne? Ou alors l'adolescent, malheureusement, qui se suicide, il a le sentiment que sa vie n'est pas digne ou que ça ne sert à rien de vivre. Donc je crois que là, il y a quand même une vraie question. Quand on voit que le numéro un des causes de mort, c'est le suicide, je dirais la question du salut, là, se pose quand même, pas le salut de la vie future. Qu'est-ce qui rend notre vie belle, digne d'être vécue? Ça, c'est quand même une vraie question, à mon avis. Et on devrait pouvoir, à mon avis, dans l'Évangile, dans ces phrases, trouver vraiment une réponse à cette question. Parce que je crois qu'elle est vraiment belle, cette réponse de l'Évangile face à cela. Finalement, à la dignité irréductible, dignité radicale, profonde de tout être humain, quelles que soient ses œuvres, quelle que soit sa dégradation physique ou dégradation mentale ou... le sentiment même de sa propre dignité, il y a une infinie dignité de chaque personne humaine. Et quand tu parlais de grâce, de cette grâce qui est don de Dieu, ou d'agapé, c'était un amour désintéressé de Dieu pour nous et entre nous, mais c'est cette question de la dignité radicale et sans mérite. Voilà, c'est ça.
S'il vous plaît, oui. La communion des saints.
La communion des saints, oui.
Les prières.
Oui. Alors ça, je préférerais laisser répondre mon collègue prêtre Jérôme Prigent sur la question de la communion des saints, parce que nous, si vous voulez...
La communion des saints, les prières qui sont faites pour les âmes de purgatoire.
Oui, oui, oui.
Les sœurs
qui passent leur Oui. Moi, je dirais que déjà, si vous voulez, la pensée des uns pour les autres, c'est important. Parce que, par exemple, un clochard qui est sur sa bouche de métro, moi, je suis sûr qu'il est infiniment précieux aux yeux de Dieu et que chacune de ses secondes est comptée. Mais n'empêche que s'il n'y a pas un ange, et cet ange, ça peut être chacun de nous, pour lui dire, ne serait-ce que de se mettre à sa hauteur au ras du sol et de lui dire, ben voilà, tiens, il fait froid, il fait beau, il fait chaud, est-ce que vous auriez passé? S'il n'y a pas quelqu'un pour lui dire sa dignité, personne ne la lui dira. Et lui, il peut tout d'un coup ne plus avoir le sentiment de sa dignité. Donc la communion des saints, c'est d'abord ça. C'est cette communion entre nous qui vient dire les uns par les autres la dignité des autres. Et moi, la bonne sœur qui est dans son couvent, qui prie pour moi, à la limite, puisqu'elle prie pour le monde, elle prie pour chaque être humain, ben ça me touche. Ça me touche parce que je sais qu'elle prie pour moi. Si elle ne dit pas qu'elle prie pour le monde et pour les autres, à mon avis, ça manque un peu, si vous voulez, parce que je ne sais pas comment on s'imagine que ça peut marcher, cette communion des saints. Il y a des gens qui s'imaginent que les bons points peuvent se communiquer comme ça, si vous voulez. Il y a des gens qui ont des œuvres surérogatoires, c'est-à-dire que s'il faut 10 sur 20 pour passer, quand on a 12 sur 20, on a trop travaillé. On a travaillé 2 points de trop. On essayait d'avoir 10 pour passer le bac. On a 12. On a trop fait. On a 2 points de trop qui ne servent à rien. On a 2 points qui ne servent à rien. Il suffisait de 10, on a 12. Ben, ces 2 points, la communion des saints, telle que se l'imagine l'homme de la rue. Jérôme va nous remettre ça au point. L'homme de la rue s'imagine que voilà, la communion des saints, c'est les œuvres surérogatoires. Sœur Emmanuel, elle a 19,5 sur 20. Elle a 9 points et demi qu'elle peut me donner, parce que moi, j'ai que 9 et demi, si vous voulez. Ou même 8, dans le meilleur des cas. Donc du coup, si je prie Sœur Emmanuel, elle va me donner 2 points et hop, je passe.
En fait, si on ne sait pas, Dieu saura.
Ça, j'aime bien cette phrase aussi. C'est Saint Jean qui dit dans sa lettre, il dit, vous avez peur du jugement de Dieu. Ah, mais Dieu vous connaît bien mieux que vous ne vous connaissez vous-même, et lui, il vous aime. Donc, on peut y aller en confiance, comme disait Jérôme. Alors, cette communion des saints, qu'est-ce que c'est dans la théologie catholique?
Moi, j'aime beaucoup la communion des saints. Je suis à
super.
Fond. Ah oui. Parce que je pense que c'est...
Comment ça marche?
C'est un trésor. Comme dans toute communion, c'est l'idée qu'il y a un espace commun, puisqu'au fond, communion, de même que justification, ça vient de justice. Communion, il y a l'idée qu'il y a un espace commun entre nous tous qui se joue à un niveau de profondeur et d'invisibilité qui, évidemment, nous échappe. Mais, alors, c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire, parce que, d'une certaine manière, étant prof de lettres, j'enseigne des textes, enfin tout le canon des écritures profanes modernes est très, on va dire, émancipateur, très promeut la liberté individuelle, l'autonomie, hein, Rabelais, Montaigne, etc. Donc évidemment, on a tendance à voir le progrès humain comme une atomisation, finalement, du corps social. Le Moyen-Âge aurait été, finalement, plus organique avec ses communautés, ses appartenances quasi-féodales, très fortes. Et puis l'homme moderne serait, finalement, dégagé de tout ça, il serait autonome, il serait... Et c'est vrai que la communion des saints réintroduit l'idée qu'il y a quelque chose entre nous qui est de l'ordre de l'organisme, au sens où on appartient au corps du Christ. Alors je sais bien que vous le dites aussi, évidemment,
oui, tout à fait, oui.
Mais peut-être de manière plus métaphorique, c'est-à-dire que la pensée de l'Église catholique tient, c'est vrai, à cette vision du corps du Christ comme étant une réalité charnelle, c'est-à-dire qu'il y a un espace commun entre nous. La fraternité que nous annonçons n'est pas une fraternité de type maçonnique, par exemple. C'est une fraternité réelle, même si elle n'est pas liée par le sang. Mais Jésus le dit, hein, on a déjà parlé de ça 1000 fois, hein, qui est mon frère. Et un espace commun avec Jésus. Et donc, il y a ce qu'on appelait beaucoup au XIXe siècle la réversibilité des mérites, effectivement. Toute âme qui s'élève, élève le monde. On parlait beaucoup de ça. Et de fait, la mystique des religieux, des religieuses avait tendance à prendre ça très au sérieux. C'est quand même assez beau. Moi j'y crois. Alors est-ce que c'est parce que je suis catholique? J'en sais rien, mais je pense que ça fait partie du bien commun. Mais de fait, et je l'ai remarqué aussi à Noël, puisque nous avons célébré ensemble Noël, et je me suis aperçu que notre conception, la conception du temps de nos deux églises n'est pas tout à fait identique. Il y a un temps plus linéaire probablement dans la culture protestante et un temps plus spiralaire chez les catholiques. Alors chez les orthodoxes c'est pire, c'est un temps qui... Il n'y a plus de temps d'une certaine manière, hein. Il n'y a plus d'histoire vraiment, puisque tout a été joué en Jésus-Christ. Donc il s'agit ensuite d'attendre la parousie et les réalités finales. Mais de fait, on peut voir l'histoire humaine, on peut vivre Noël avec l'idée que chaque Noël nous éloigne toujours plus du premier Noël. Que le Noël 2013 sera encore un peu plus loin que le Noël 2012 du premier Noël. Et dans la conception catholique, mais ce n'est pas étranger à l'idée de communion des saints, et l'idée d'organisme, je pense que l'histoire coagule plus au sens où chaque célébration de Noël nous rend contemporains de Noël, en fait. Hein. C'est Saint Léon qui disait aujourd'hui, et d'ailleurs dans la liturgie on dit aujourd'hui il vous est né un sauveur, etc. Et c'est la première fois que je réfléchissais en... Et alors je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux, c'est pas ça, mais ma structuration mentale est comme ça. Et de même qu'on dit que l'Eucharistie, c'est la réactualisation, etc., du mémorial. Donc, je pense qu'en fait, la vérité, elle est entre les deux. Elle est sûrement à négocier. Mais la communion des saints, moi, me semble pas... Moi, je la vois pas comme une comptabilité, hein. Mais comme une sorte... Que... Tes histoires de moyenne, là...
Non, mais ce que vous disiez, madame, la prière pour les âmes du purgatoire, c'est vrai que la communion des saints...
Excusez-moi, je donne un exemple. Oui. Tout à l'heure, un homme m'aborde, là, qui est venu, oui. Et il me demande de l'argent. Je lui dis, bon, il faut que je me méfie. Quand je sors mon porte-monnaie, il va me l'arracher. C'est constant.
Oui.
Bon, eh bien, je m'en vais, je fais une prière. C'est d'un pratique, vous comprenez?
Ah oui.
Si vous avez besoin, c'est évident. Je me dis, oh, c'est très pratique. Cette...
Oui, mais alors.
J'ai été efficace, mais sur le moment.
Alors là, la lettre de Saint-Jacques est pour vous, parce que précisément. Voilà. Parce que précisément, il dit il y en a qui raisonnent comme ça. Il va, voilà. Alors, c'est-à-dire qu'il faudrait les deux.
Quelqu'un arrivé, hop, qu'il a piqué. Il ne peut pas donner de l'argent dans la rue. On voudrait donner quand même quelque chose. Je ne peux pas l'emmener chez moi, je ne peux pas l'emmener ici.
Oui.
Il y a des gens qui ont une poche réservée à ça, qui ont prévoient, parce qu'ils savent statistiquement que ça va arriver trois fois dans la journée.
Non, mais on peut...
Je vais parler véritablement de cette prière avec l'indication, avec le divin.
Bien sûr.
Je pense pas
qu'on... Non, bien sûr.
Non, mais quand on fait des prières, dire des prières, par exemple, pour les morts, comment est-ce que ça marche ou bien...
Oula. L'Église nous fait prier tout le temps pour tout le monde.
Oui, mais si les gens ne le savent pas, compris pour eux, est-ce que ça marche? C'est ça la question. Comment est-ce que c'est comptabilisé quelque part au ciel qu'un tel prie pour une telle? Moi, je crois qu'il faut dire, qu'on prie pour la personne. Et c'est pas magique, si vous voulez. Je crois que ce corps du Christ, c'est un peu... Moi, je serais plus comme Jacques. Ça passe. Mais justement, il faut que...
Donc, on peut toujours s'adresser à lui dans des choses concrètes de la vie.
Moi, je suis d'accord. Mais justement, je dirais...
Oui, si on n'a pas autre chose à donner.
Oui, mais justement, je dirais qu'il faut que ça s'incarne. Il faut justement que ça s'incarne, c'est-à-dire qu'une prière qui reste comme ça dans l'éther, si on prie pour quelqu'un et qu'on ne le lui dit pas, ça reste dans l'éther. Et il faut que cette prière, elle se dise, elle se manifeste et qu'éventuellement elle se manifeste par un geste, c'est-à-dire par une action pour l'autre, une compassion, une solidarité. Et c'est le corps du Christ dans Paul, dans 1 Corinthiens 12 par exemple, il parle de compassion, c'est-à-dire que quand il y a un être qui est plus faible... qui est en difficulté, il y a cette compassion, mais qui est un agapé actif, justement, avec une prière qui se dit, avec une main qui s'ouvre, pas dans sa chambre, prier pour la paix au Sahel, si vous voulez. Ça, je crois que... Mm-hmm. Non, c'est une prière, justement, qui s'incarne. C'est ça, le Christ, aussi. Enfin, je ne sais pas.
Comme je suis très consensuel, et tout le monde le sait, mais... C'est-à-dire que... Moi, l'idée de psychologiser la prière, moi, ça ne me dérange pas, parce que, de fait, je pense qu'il faut que les personnes sachent, et il faut sûrement renoncer à une conception trop éthérée ou trop magique, mais en même temps, avec quand même l'idée que peut-être quelque chose nous échappe, enfin... moi, je ne peux pas imaginer que toutes ces vies consumées dans des cloîtres pendant tant de siècles aient été aussi vaines et... Enfin...
Non, parce qu'on sait qu'il prie pour nous, quand même. Il y a un vrai témoignage dans le monde. De la chartreuse, ces chartreuses sont enfermées Donc d'abord, ils font de la bonne liqueur de chartreuse, qui est tout à fait... Il y en a de la magnifique, hein, qui vient d'Espagne. Il y a de la vieille chartreuse qui vient d'Espagne, c'est incroyable. Je ne sais pas comment dire. Enfin bref, mais on sait que les chartreux prient quand même. Mmh. Ouais, le monde le sait. Le monde le sait.
Le grand silence, là. Justement,
exactement.
On pourrait être très indépendant. Enfin, les uns les autres, ils ne se parlent pas.
Ils ne se parlent pas.
Une fois par mois, là, où ils vont se promener ensemble. Et ça, c'est pour maintenir le moral, je pense, plus qu'autre chose, psychologique. Mais sinon, ils sont tout seuls dans leur petite chambre.
Même au repas,
la gamelle arrive toute seule devant le truc. Là.
Même au repas, ils se parlent.
Mais eux disent qu'ils ne sont pas seuls, justement, puisqu'il y a cette...
Bon, peut-être qu'on peut lire les textes quand même, parce que là, c'était une introduction.
Oui. Mais juste pour terminer quand même, parce que ces textes qu'on va lire ont été beaucoup... à vrai dire, ils n'ont jamais été inconnus ou laissés de côté, mais ils ont été beaucoup relus quand même par les exégètes depuis, on va dire, une trentaine d'années. J'ai un peu travaillé la question, des gens comme Hübner, Sanders, l'Américain, et puis Reisenen, ou plus près de nous, Elian Cuvillier, ou Michel Quesnel, et d'autres ont beaucoup travaillé Saint-Paul. Le corpus paulinien a été quand même beaucoup redécouvert, et ça n'est pas sans incidence, et sur notre conception de la morale, parce que quand même, malgré la subtilité de la dialectique paulinienne, quand même... Il nous présente un christianisme libéré de la loi et donc sous le régime de l'esprit. Alors bien sûr, il y a des gens qui se croient trop vite affranchis, émancipés de toute loi et qui se croient dans l'esprit. Évidemment, ça ne marche pas aussi simplement que ça. Mais quand même, et alors là, c'est le catholique qui parle parce que nous sommes porteurs aussi d'une mémoire très tatillonne et très... très encombré de prescriptions juridiques, éthiques, etc. Moi, je suis né après 68, mais je sais très bien à quel point il faut accompagner des personnes aussi dans ce délestage et ne pas montrer qu'il ne s'agit pas du tout de brader la religion, comme on dit, mais qu'il s'agit d'entrer plus profondément dans le mystère du Christ et que saint Paul nous y aide en montrant que précisément nous sommes sous le régime de l'esprit. Ce qui, d'une certaine manière, est terrible, parce que l'esprit nous responsabilise beaucoup plus que si nous étions simplement dans l'observance étroite de règles minutieuses. Alors, il y a ça d'une part, donc ça a modifié, mais substantiellement, notre rapport à la morale, et ça a modifié les liens entre judaïsme et christianisme, évidemment, parce que relu à travers l'épître aux Romains, à travers l'épître aux Galates, évidemment, on comprend bien... Et c'est très complexe parce que on a tout dit de saint Paul. On a dit à la fois que c'était le pharisien par excellence et qu'il l'était resté jusqu'au bout, pharisien traditionnaliste. On a dit exactement l'inverse. On a même dit qu'il comprenait rien, qu'au fond il était peut-être pas si juif que ça. Mais au fond, c'est un vrai juif, fasciné et amoureux de la loi, mais en même temps qui s'en affranchit, qui en affranchit les autres, mais qui reste profondément dans cette vénération de l'écriture comme une parole d'autorité, mais c'est cette autorité qu'il va redéfinir. Voilà. Il y a un nouveau statut de l'autorité, un nouveau statut de la manière dont on lit les écritures pour un disciple de Jésus, le Christ. Voilà. Alors, l'Épître aux Galates, chapitre 3.
Qu'est-ce que accepterait de nous lire donc ce chapitre 3 de la lettre aux Galates, hein? Merci. Alors, je ne sais pas si c'est Madame ou non, vous voulez, ou, je sais pas, ou Jean-Claude, je ne sais pas.
Oui.
Qui veut?
Ô Galates stupides, qui vous a envoûté alors que sous vos yeux a été exposé Jésus-Christ crucifié, éclairez-moi simplement sur ce point. Est-ce en raison de la pratique de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou parce que vous avez écouté le message de la foi? Êtes-vous stupide à ce point? Vous qui d'abord avez commencé par l'esprit, est-ce la chair maintenant qui vous mène à la perfection? Avoir fait tant d'expériences en vain, et alors, si c'était en vain, celui qui vous dispense l'esprit et opère parmi vous des miracles, le fait-il donc en raison de la pratique de la loi ou parce que vous avez écouté le message de la foi?
On s'arrête, on commence déjà par ce paragraphe?
Oui, je pense que, parce que c'est très dense, alors voilà. Galates stupides, j'aime beaucoup, les Galates étaient des Celtes un peu égarés.
C'est des Gaulois, les Galates.
C'est des Gaulois, oui, tout à fait. C'est un peu nous, c'est le côté Astérix. Et ils sont un peu, voilà, un peu têtus, comme on dit des Bretons, d'ailleurs, c'est ça. Galates stupides, c'est ça.
Parce que t'es Breton, hein.
Mais voilà, tout à fait, très têtu.
Moi, j'aurais pas osé.
Très opinial. Il y a ce côté un peu, voilà. Alors, d'ailleurs, pourquoi, il le dit à deux reprises, pourquoi dit-il ça à ces Galates? Ce sont des Galates du nord de la Galatie, plus, comment dire, moins proches du bassin méditerranéen. Donc, c'est une communauté uniquement pagano-chrétienne. Vous savez que parmi les églises fondées par Paul, il y a des églises qui sont judéo-chrétiennes, donc très vite ça ne l'intéresse pas d'ailleurs, parce que c'est le même monde, etc. Donc l'église judéo-chrétienne par excellence, c'est celle de Jérusalem. Donc très vite, il s'affranchit de ça, il part, mais il va aussi fonder ou être en relation avec des églises qui sont mixtes, où il y a autant de juifs que de païens d'origine. C'est le cas de l'église de Rome. La fameuse épître aux Romains s'adresse à une communauté où il y a des juifs et où il y a des païens. Les Galates sont uniquement des païens. En revanche, ils ont été apparemment, si on lit entre les lignes, ils ont été l'objet de missions de la part de missionnaires qui essaient de les faire judaïser. Alors on ne sait pas bien historiquement si ce sont des chrétiens, des judéo-chrétiens qui essaient de leur dire, vous savez, c'est quand même plus sûr d'être comme nous, d'être judéo-chrétien, c'est-à-dire de garder les lois alimentaires, la cachéroute, de garder la circoncision pour les hommes, de garder les fêtes juives, Shavuot, etc. Parce que c'était ça, vous imaginez bien que c'était comme les premiers disciples de Jésus étaient des juifs, la tentation c'était de... Parce que Jésus n'a pas fondé une religion comme ça, en bloc. Donc la tentation, c'était de rester juif. Et saint Paul, là, dit, voilà, il faut en prendre, en laisser, et puis de plus en plus, il en laisse, précisément. Or, les Galates ont été visités, avant sa venue, par des missionnaires, on ne sait pas s'ils sont judéo-chrétiens, ou peut-être des missionnaires juifs, peut-être des juifs... hétérodoxes, en tout cas des gens qui essaient de les faire judaïser et donc qui leur disent qu'il faut appliquer la loi pour être sauvé. Voilà. Les 613 observances de la loi, comme diront les rabbins. Les 613 mitzvot de la loi. Alors, parmi les mitzvot, il y a les 10 commandements, bien sûr, qui sont en gros la loi naturelle, tu ne tueras pas, etc. Mais au-delà des 10 commandements, il y avait des prescriptions extrêmement complexes, les ablutions, des lois alimentaires, etc. C'était les 613 franges du châle, du talit, que portait Jésus d'ailleurs lui-même, hein. On le sait. Voilà. Donc Paul leur dit, mais ça ne va pas, vous allez mettre votre foi dans une loi qui n'a jamais sauvé personne, parce qu'aucune loi ne sauve personne. Et voilà, moi je vous ai annoncé Jésus-Christ et voilà, vous êtes retombés en arrière, vous régressez, stupide Galate.
Alors je crois que c'est dans l'épître aux Galates, on voit dans le début, il y a une dispute entre Pierre et Paul finalement, sur cette question-là, parce que Pierre avait cette liberté, la même que Paul finalement, mais quand viennent des émissaires de Jacques, tout d'un coup Pierre se dit mince, mais je vais être dénoncé à Jérusalem, et il craint Jacques, ce Jacques je pense qui est celui de la lettre de Jacques, qui était le chef de l'église de Jérusalem, au-dessus même des apôtres, des 11 apôtres.
On le dit frère de Jésus, hein.
Le frère de Jésus ou le demi-frère, ça peut être un frère, ça peut être un cousin, parce que frère c'était un peu large, ça peut être aussi un frère, un fils de Joseph par exemple. Même s'il n'est pas fils de Marie, ça peut être un demi-frère, on n'en sait rien. Toujours est-il qu'il était apparenté et qu'il y a eu un début de dynastie, c'est-à-dire que ce Jacques est devenu big chef, grand chef, même de Pierre, au-dessus de
patriarche
Pierre.
Patriarche de Jérusalem, c'est patriarche, le premier patriarche.
C'est le premier, voilà. Et donc il rayonnait largement sur d'autres églises, parce qu'il y avait cette aura de l'église de Jérusalem. Et donc, il y a ce débat. Alors, moi, je crois que le verset important ici, c'est quand même, au verset 5, si vous voulez, l'Esprit qui opère parmi vous des miracles. Donc j'ai l'impression que le salut, c'est ça. C'est l'Esprit de Dieu, finalement, le Saint-Esprit. Ils ont mis un E majuscule à Esprit, bien sûr. C'est l'Esprit de Dieu qui fait des miracles, c'est-à-dire qui opère des œuvres. Parmi vous, c'est toujours un peu ambigu. C'est entre nous et en chacun de nous, finalement, hein, des miracles. Et donc, c'est ça, finalement, qui est fondamental. Alors, cet esprit, cette ouverture à l'esprit, est-ce que c'est en faisant les œuvres de la loi, comme le dit Jérôme, c'est-à-dire avec ses pratiques rituelles, ou bien avec des bonnes œuvres de générosité pour les pauvres, ou bien si c'est... Alors là, la traduction, qui est la traduction œcuménique, ils ont dit... Est-ce que vous avez écouté le message de la foi? Mais en fait, en grec, il n'y a pas marqué le message, il y a marqué simplement, ou est-ce que c'est par la foi, simplement. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ce par la foi? C'est ça qui est délicat, parce que si vous voulez, eux, ils ont traduit dans la Tob pour essayer d'expliciter le truc. Ils ont mis écouter la bonne doctrine, finalement. C'est mon message, le message que Paul dit, mais en fait, ce n'est pas ça la question. Je crois que c'est une ouverture par la foi, par la confiance en Dieu, parce que la foi, c'est ça, si vous voulez. La foi, c'est... qu'est-ce que c'est que foi? C'est une ouverture à Dieu, une confiance en Dieu, un cœur qui cherche Dieu. C'est plutôt ça, si vous voulez. Donc, est-ce que c'est simplement cette confiance, cette sincérité vers Dieu, tournée vers Dieu, qui, du coup, s'ouvrant à l'esprit, laisse travailler Dieu à l'intérieur de nous-mêmes? Moi, je verrais les choses comme ça, si vous voulez. Alors, il dit, bon, c'est pas la question de bien faire les pratiques rituelles, comme si Dieu, quand on ne mange pas de porc, il va compter un bon point, par exemple, et quand on mange du porc, il va compter mettre un mauvais point. Il dit, mais c'est pas ça qui est en jeu, si vous voulez. Dieu est pas là à compter, savoir si on a fait ceci, manger du porc ou manger du poulet comme ceci ou du poulet pas comme cela. Mais il est plutôt, il ne demande pas mieux, si vous voulez, que de travailler à l'intérieur de nous-mêmes, par son esprit, de travailler dans les relations qui sont entre nous aussi, dans ce corps du Christ, comme le disait Jérôme. Et donc c'est par la foi qu'on s'ouvre à cela. Et alors il dit, mais si c'était vraiment par la loi, par ces manipulations, à quoi ça serve que Jésus soit crucifié, finalement? Ça n'ajoute pas grand chose à ce moment-là, parce qu'il suffisait simplement d'avoir ces catalogues de bons points, finalement.
Juste un petit éclairage, peut-être parce que ça vous surprend, l'usage du mot chair à la quatrième ligne. Est-ce la chair maintenant qui vous mène à la perfection? Ça, c'est important parce que le mot revient souvent chez saint Paul. La chair ici est du côté de la loi. Pour le dire vite, le péché, la chair, la mort, la loi sont du même côté et fonctionnent comme un même réseau lexical d'une certaine manière chez saint Paul. Alors, qu'est-ce que la chair? Alors du coup, on a dit, mais saint Paul a une vision négative de la chair. Non, pas du tout. Mais la chair, c'est la condition humaine, c'est la condition humaine. Il n'y a pas de nature humaine chez saint Paul. C'est la condition humaine livrée à elle-même. Donc livré à ses concupiscences, livré à son illusion d'autonomie et d'indépendance. C'est la liberté en roue libre, c'est ça la chair. C'est la condition humaine qui n'est pas en communion immédiatement avec Dieu, et donc les réalités charnelles sont marquées par le péché et par la mort. Et donc la loi est vue du côté de la chair. Elle est vue du côté des déterminismes. La chair, c'est les déterminismes. Tout ce qui nous détermine socialement, culturellement, linguistiquement, ethniquement, etc. Voilà. Or, vous le savez, l'illusion d'être libre, c'est faire l'impasse sur tout ça. Alors, bien sûr, les sciences humaines nous apprennent qu'on n'est pas si libre que ça, qu'on a un inconscient, qu'on est conditionné par notre milieu social, etc. Mais enfin, quand même... Souvent, on pense que tout ça, face à la transcendance qu'il y a en nous et qui est capable de faire des choix, etc., on a tendance à minimiser ses appartenances et ses inscriptions historiques. Or, la chair, c'est ça. Évidemment, saint Paul n'a pas les mots que j'utilise. Il n'a pas les mots déterminisme, mais c'est ça. On est pris dans une chaîne de causalité qui fait que, de toute façon, on va à la mort. Et puis, à cause du péché originel, il ne parle pas de ça, bien sûr, mais tout ce qu'on fait, c'est quand même un peu égoïste. Et même ce qu'on fait de bien, c'est toujours... Voilà, les moralistes français, La Rochefoucauld, tout ça, iront beaucoup dans ce sens-là. Hein, tous nos vices... Toutes nos vertus ne sont que des vices déguisés, etc. Bon, c'est une vision anti-humaniste, comme on dit, c'est-à-dire l'être humain livré à lui-même, voilà, c'est ça, c'est la chair. Bon. Et saint Paul dit que la loi est du côté de la chair. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en même temps, ailleurs, il dit que la loi est sainte, elle vient de Dieu. Il ne crache pas du tout sur la loi, hein, comme on pourrait croire. Mais il va expliquer après qu'en fait, la loi est transitoire. On verra ça plus tard. Donc la loi est sainte, mais elle ne transmet pas la vie de Dieu. Elle ne peut pas. Et elle ne peut pas sauver parce qu'au fond, elle est multiple. Et alors là, il est peut-être marqué par la pensée grecque, mais le multiple ne peut pas sauver parce que le multiple particularise, enferme dans une culture, encore une fois, identitaire. Voilà. Voilà. Et donne l'orgueil de l'élection. Et alors évidemment, un juif n'aura pas cette vision de la loi aujourd'hui. Un juif va dire la loi, c'est ce qui maintient dans l'alliance. Et beaucoup d'historiens ont dit que saint Paul est très dur quand même, au fond, avec la loi, avec la Torah. Quand on dit la loi, c'est la Torah, bien sûr, qui désigne tout le Pentateuque. Parce que la loi, ce n'est pas seulement des prescriptions, c'est tout ce qui a une valeur d'autorité. Donc ça peut être des récits. Alors, Sanders, par exemple, dit que saint Paul est trop dur et qu'au fond, la loi, c'est ce qui permet aux Juifs de vivre devant Dieu et que la loi, c'est la vie. C'est le don que Dieu fait de sa vie. Ce qui est vrai. Mais quand même, pratiquer la Torah, pratiquer la loi, implique normalement d'être intransigeant sur tout et de mettre les 613 observances au même plan. Et là, saint Paul conteste ça. Il dit, voilà, c'est pas pareil quand même de manger du porc ou de tuer quelqu'un.
Et puis, on voit Paul qui est pris dans ce tragique, ça, je crois que c'est Romains 7 ou quelque chose comme ça. Il dit, mais moi, je suis plein de bonne volonté, j'étais plein de bonne volonté, je voulais appliquer cette loi. Mais en fait, je me rends compte que, c'est ce que tu dis, le déterminisme de la chair. C'est comme l'enfant, quand il fait une bêtise, des fois, il a fait exprès, mais souvent, il n'a pas fait exprès. C'était plus fort que lui, pan, la bêtise est partie. Et on en est là, c'est ce que dit Paul. Il dit, mais... Moi, le bien que je veux faire, vraiment, j'en suis convaincu, je veux faire le bien, et puis en fait, c'est le mal qui arrive dans ma vie, il est pris dans ce tragique où nous sommes tous. À la limite, on voudrait tous avoir un comportement parfait, jamais en colère, être toujours actif, de bonne humeur, bon pour les autres, que chacune de nos bonnes œuvres, pour l'autre, produise des fruits merveilleux, c'est rendre l'autre heureux, meilleur et tout. Et puis nous sommes pris dans ce tragique, bah, c'est qu'en fait... on a du mal à faire le bien qu'on voudrait faire. On a du mal. Et il dit, et Paul dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort, c'est-à-dire de ce tragique de l'existence où j'ai ce déterminisme qui fait que j'ai toujours ces désirs, toujours ce manque de contrôle de moi, ce manque de vision élevée. Et il dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Donc il reconnaît en Jésus-Christ comme là, il parle de miracle, finalement, de l'esprit. Il dit, voilà, la loi, elle est du niveau de la chair, parce que, même si elle est bonne dans le sens qu'elle révèle la vie de Dieu, c'est-à-dire que c'est mieux de ne pas tuer que de tuer, c'est mieux de faire vivre, de libérer comme Dieu fait, c'est parfaitement vrai. Et Paul le dit, la loi est bonne, mais elle est incapable de nous élever au-dessus de l'humain, de ce tragique de l'existence. Elle nous révèle ce qui est bon de faire et... À la limite, ça empire notre cas, car nous prenons conscience de cet abîme qu'il y a entre ce que je suis et ce que je devrais être. Et donc, c'est même peut-être pire, du coup, parce qu'il y a cette conscience du bien qui me plonge dans le tragique, finalement, de là où j'en suis. Et il dit, voilà, le salut, c'est bien cet esprit qui est donné en Dieu, par Dieu, par grâce, et dont on se saisit par la foi, finalement. Alors, quel est le rapport de Jésus-Christ avec cela? Moi, je pense que c'est parce que Jésus-Christ manifeste, justement, l'amour de Dieu et qui permet la confiance en Dieu. C'est une confiance, un cœur large, ouvert. Malgré notre petitesse, notre finitude et nos erreurs, et machin, on peut faire une confiance totale et absolue dans un Dieu qui aime. C'est ce que dit Paul, je ne sais plus où. Voilà, moi je suis déjà moyennement motivé pour mourir pour quelqu'un qui est juste, qui est merveilleux, qui serait un. Mourir pour un coupable, moi je ne pourrais pas. Et donc il dit, le Christ a fait cela, de mourir pour chacun. Et donc du coup, il manifeste cet amour infini de Dieu, quelle que soit votre condition. Du coup, ça permet de motiver pour s'ouvrir vers cet amour qu'est Dieu et de s'ouvrir par le même coup à l'Esprit.
On peut peut-être continuer.
Oui. Ah.
Sarx, qui a donné sarcophage. Sarx.
Sarcophage, c'est les mangeurs de chair.
Et surtout pas soma, pas le corps. Parce que voilà, la chair et le corps, ce n'est pas la même chose. Hein. Le dualisme platonicien corps
âme.
Et âme, soma et psyché, a souvent été de manière indue plaqué sur la chair et l'esprit chez saint Paul. Or, ça n'a rien à voir. La chair et l'esprit sont deux modalités de vivre son corps chez saint Paul. Saint Paul est un vrai sémite de ce point de vue-là. Il ne quitte jamais le corps. Il n'y a pas de dualisme chez saint Paul. On est d'emblée dans le corps et il y a deux manières de vivre le corps. Comment ?
Oui, en hébreu, c'est bassar.
Ah, c'est bassar. Oui, oui, c'est l'équivalent. Quand il dit sarc, c'est bassar.
C'est bassar.
En hébreu.
Bassar, c'est aussi c'est la même racine que bessora, la bonne nouvelle, tout à fait exactement.
Il y a une bonne nouvelle de la chair, de toute façon, c'est évident.
Mais ça, j'ai bien aimé son expression. Voilà, c'est la chair, chez saint Paul, c'est un déterminisme. C'est-à-dire d'en rester au niveau de nos simplement de se laisser du laisser aller par rapport
à nos illusions,
de nos illusions, de nos idoles, de simplement le désir de l'instant, sans recul, sans réflexion, c'est plutôt ça.
Mais effectivement, alors pour reprendre un peu ce que vous dites, parce que ça c'est une distinction fondamentale, parce que tout l'Occident a vu dans la chair et l'esprit chez saint Paul, le dualisme grec, le corps et l'âme, l'idée que le corps est une prison pour l'âme et qu'il faut que l'âme se libère du corps et que le corps va à sa ruine, il meurt, et puis l'âme se libère. Bon, et on a encore cette vision-là. Et beaucoup de théologiens disent que c'est très difficile d'ailleurs de dire aux gens que ça ne fonctionne pas comme ça parce que les représentations et les schémas culturels sont trop forts pour qu'on propose une autre forme d'anthropologie. Mais la chair et l'esprit, chez saint Paul, c'est vraiment deux modalités de vivre dans son corps. Et au fond, ça équivaut à ce qu'il appelle aussi l'homme nouveau et le vieil homme. Le vieil homme, c'est la chair. Et l'homme nouveau, c'est l'esprit. Mais ce n'est pas un esprit abstrait, c'est un esprit qui est incarné d'emblée. C'est ce que Jésus appellerait le monde et le royaume. Le monde, c'est la chair. C'est l'esprit du monde, hein. C'est pas le cosmos, bien sûr, c'est le monde au sens de saint Jean, hein. C'est-à-dire tout ce qui s'oppose à Dieu, tout ce qui résiste à l'évangile, le monde et le royaume, c'est précisément cette autre manière de vivre. À chaque instant, il y a deux manières de vivre son corps et de vivre notre incarnation. Il y a deux manières qui nous sont données. Soit on vit selon la chair, soit on vit selon l'esprit. Alors évidemment, quand on fait son examen de conscience du soir, en bon catholique, évidemment, on s'aperçoit qu'on a, on fait des compromis sans cesse, qui sont quelquefois même des compromissions. Oui.
Vous m'avez fait surpris que vous posiez cette question, que vous parliez d'élan humilier.
Oui.
Et dernièrement, je l'avais rencontré tout à fait par hasard, et que vous parliez de la foi. Et moi, je lui pose cette question, je me dis, tu as qu'à prendre le dictionnaire à roue, c'est un engagement, le mot foi.
Oui.
Et alors, il me dit, par moments, des fois, on dit qu'il faut une foi, mais ce n'est pas précisé. Vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on met le mot foi à n'importe quoi.
Ah ben bien sûr, on en fait une adhésion intellectuelle, Oui, mais ça engage existentiellement la foi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il ne peut pas y avoir de foi sans les actes. Et c'est pour ça que la réponse à la question de ce soir, Marx aurait appelé ça la praxis, c'est-à-dire que l'idéologie ne peut que, sinon elle n'est pas crédible. Et de fait, la foi, c'est Saint Jacques qui va le montrer.
On verra mieux avec Jacques.
Oui, on verra avec Jacques. La foi est devenue à un moment une sorte de croyance. Il dit au fond, la foi, c'est, ça devient dire, je crois que Dieu existe. Mais je crois que Dieu existe, c'est une formulation intellectuelle. Il y a des tas de gens qui peuvent dire ça. Au fond, d'abord, on ne saura jamais de manière existentielle. Donc ça veut bien dire que la foi, c'est autre chose. Parce que je crois que Dieu existe, c'est l'opinion. C'est le degré le plus bas sur l'échelle de la vérité. Ce qu'on appelle la doxa. La doxa, c'est « je crois que Dieu existe, bah, très bien, et puis il m'arrive une tuile et je crois qu'il n'existe plus. » Bon, on ne peut pas être comme ça tout le temps, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui disent « j'ai perdu la foi ». Mais parce que précisément, c'était « je crois que Dieu existe », puis tout d'un coup, « je crois qu'il n'existe plus » ou « je crois plus qu'il existe ». Bon, mais la foi, c'est forcément un engagement. Donc forcément, il y a les actes qui sont… Voilà. Bien.
Alors, on lit la suite.
Deuxième paragraphe.
Jean-Claude, tiens.
Puisque Abraham eut foi en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, comprenez-le donc, ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi donc, ceux qui sont croyants sont bénis avec Abraham, le croyant. Car les pratiquants de la loi sont tous sous le coup de la malédiction, puisqu'il est écrit « Maudit soit quiconque ne persévère pas dans l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs évident que par la loi, nul n'est justifié devant Dieu, puisque celui qui est juste par la foi vivra. Or, le régime de la loi ne procède pas de la foi. Pour elle, celui qui accomplira les prescriptions de cette loi en vivra. Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Cela pour que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens en Jésus-Christ et qu'ainsi nous recevions par la foi l'Esprit, objet de la promesse.
C'est sublime, c'est sublime. Mais...
Waouh. Donc là, on retrouve finalement la finalité au bout, c'est recevoir par la foi l'Esprit, objet de la promesse. C'est quand même ça le fond de la question, c'est cette ouverture à l'Esprit par la foi. Alors c'est vrai, ce qui est trompeur, c'est qu'au milieu, ceux qui sont croyants ou Abraham le croyant, c'est ambigu, parce que croyant, on pourrait penser à croyance. C'est-à-dire, comme tu disais, la distinction intéressante, c'est là, il ne s'agit pas de savoir.
Si, c'est ceux qui ont la foi.
Ça, c'est ceux qui ont la foi.
Fidèles,
ceux qui sont fidèles, ceux qui sont en relation avec Dieu, ceux qui choisissent d'être en relation avec Dieu, dans une recherche de Dieu, à la limite. Quelqu'un qui ne croit plus que Dieu existe, mais qui continue à le chercher, il est plus dans la foi que quelqu'un qui croit que Dieu existe et qui s'en fiche, qui ne s'en occupe pas. Donc c'est bien ça, si vous voulez. C'est une foi, c'est... Bon, alors ensuite, il y a ces trucs mystérieux avec Christ, malédiction, ou je ne sais pas quoi. Effectivement, par la loi, si vous voulez, le Christ a été condamné par la loi, puisqu'il ne respectait pas le sabbat, et que par conséquent, il a été condamné à juste titre, comme n'appliquant pas la loi. Or, qu'est-ce qu'il faisait, par exemple, le jour du sabbat? Eh bien, il guérissait quelqu'un. Et donc, il avait cette créativité, finalement, par l'esprit, un jour du sabbat, par la compassion dont on parlait tout à l'heure, cette compassion, vous voyez quelqu'un qui souffre à côté, eh bien, il ne peut pas s'empêcher, même si c'est le sabbat, marqué dans la loi, garder un jour par semaine, c'est pas trop demandé. Pour penser à Dieu, mettre Dieu en premier, au-delà des actions au niveau de ce monde. C'est une bonne loi, si vous voulez, de garder du temps utile et bon pour penser à Dieu. C'est tout à fait bien. Un jour par semaine, c'est pas trop demandé. Et mais pour Jésus, il a cette liberté par l'esprit de peut-être avoir besoin de faire quelque chose d'utile et de bon, de guérir quelqu'un le jour du sabbat. Et crac, il tombe sous le coup de la loi, et il est exécuté pour cela, comme d'ailleurs le propose la loi de Moïse, effectivement. Et donc là, on a ce paradoxe qui montre que il existe des fois où la loi déclare maudit le Christ de Dieu, c'est-à-dire le juste, avec plus qu'un grand J, c'est celui qui est source même de justification pour l'humanité entière.
C'est en Deutéronome 21 qu'on entend ça. Maudit soit celui qui est pendu au bois de la croix. Et donc, pour saint Paul, c'est la preuve que la loi s'est trompée.
Voilà.
Puisque il prend la loi en flagrant délit de contradiction. Puisque précisément, Jésus le Christ ne peut pas être maudit. Alors derrière tout ça, il y a l'événement de la Pâque, il y a la résurrection. La résurrection ne peut être qu'une bénédiction et non pas une malédiction. Donc Dieu a donné raison au Christ et a fait mentir sa propre loi. Donc ce qui rend caduque la loi. C'est un raisonnement célèbre, hein, ce passage est célèbre. Il prend la loi en flagrant délit de contradiction et d'erreur. Voilà. Alors, ça peut nous sembler un peu sophistique, mais c'est assez beau comme...
Sinon, ce qu'on remarque, c'est que on dit que c'est Paul, l'apôtre Paul, qui est l'inventeur de l'universalisme, de l'ouverture aux païens. Mais c'est, en fait, c'est pas du tout le cas. On voit très bien, et il a raison, dans la promesse donnée à Abraham en Genèse 12, répétée en 15, 17, 18, et je sais pas encore laquelle, 22, 24, bon, si vous voulez, c'est clair qu'il y avait cette idée que toutes les nations de tous les peuples seraient bénies par Abraham. Par conséquent, il y avait cette attente que le Messie, incarnerait, ouvrirait donc cette bénédiction à l'ensemble de tous les peuples. Et c'est naturellement ce dont se saisit l'apôtre Paul, évidemment. Mais le Christ lui-même, bien entendu, était dans ce plan, dans cette réalisation de cette promesse, évidemment. C'est pas Paul qu'en est l'inventeur. Et donc voilà, il dit cette promesse, elle est pour vous, et donc vous êtes enfant d'Abraham par la promesse. Et ça c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous est donné à chacun et à tous, et il n'y a pas de condition mise sur le fait donc d'être reconnu comme enfant d'Abraham, puisque c'est la promesse, Dieu y a engagé sa parole, c'est sa liberté, son choix à lui, c'est pas notre choix à nous. Et la foi, c'est prendre conscience de cette promesse de Dieu qui nous concerne directement. Je ne sais pas très bien comment on peut dire autrement.
Il y a aussi un aspect qui apparaît, que tu avais évoqué légèrement avant. Et c'est toujours une question pour nous, hein, sur la valeur de la loi, le plus de loi. Beaucoup de juristes disent que ce n'est pas toujours en empilant les lois qu'on crée de la justice, forcément, la loi ne peut pas... les pratiquants de la loi sont tous sous le coup de la malédiction. Ce qu'il veut dire, c'est que, en fait, comme ils ne vont jamais réussir à appliquer les 613 mitzvot, de toute façon, ils seront toujours, plus ou moins, en reste. Et du coup, certains risquent de s'y habituer. C'était le problème, d'ailleurs. Les pharisiens, eux, essayaient d'appliquer les 613 observances, mais il y avait beaucoup de juifs qui ne le faisaient pas. Pas seulement Zachée dans l'évangile. Mais voilà, donc évidemment, ça créait du clivage. Et ça crée du clivage en soi aussi. Parce que précisément, et tu l'as évoqué un petit peu, mais pour moi, c'est essentiel. Et c'est essentiel, et je le dis parce que quelquefois, on a des mentalités un peu légalistes, justement. Mais la loi, tu l'as dit, révèle le péché. Donc elle appelle péché ce qui est péché. Mais elle donne du coup une force au péché que le péché n'aurait pas s'il n'y avait pas la loi. Et du coup, ça pousse à la transgression. On sait très bien. La transgression entretient un rapport de complicité trouble avec la loi. Puisque la transgression a besoin de la loi. La transgression n'est pas l'autre, n'est pas l'altérité, comme dirait Foucault, absolue de la loi. C'est pas autre chose. On a besoin de la loi pour pouvoir la transgresser. Donc il y a une connivence. Et c'est ça que saint Paul dénonce. La loi rend schizophrène. Elle fait qu'on annonce de bouche des commandements qu'on n'applique pas, par ailleurs. Et donc, c'est pour cela... Et ça, je pense qu'on peut l'appliquer à tout système juridique un peu trop, comment dire, un peu trop prescriptif. Il y a dans la loi quelque chose qui ne marche pas. Alors, elle a beau être sainte, elle crée précisément cet état que Ovide dénonçait déjà. Je fais le bien, je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne voudrais pas, etc. Parce qu'elle nomme des choses et elle donne une force, et souvent on l'a tous expérimenté. Au fond, on se dit quelquefois que s'il n'y avait pas eu dans notre imaginaire un interdit extrêmement fort sur une réalité, cette réalité n'aurait pas eu un attrait. C'est pas seulement vrai des ados qui vont fumer en cachette, c'est vrai de tout interdit. Alors il y a des interdits structurants qui sont fondamentaux, évidemment, qui sont anthropologiques, mais la loi donne des règles qui sont des règles aussi avec de l'arbitraire, enfin avec une part de convention culturelle, et du coup ça donne à la transgression une force, une séduction qui conduit au péché et qui d'une certaine manière est un cercle vicieux parce que on s'y habitue et ça ne peut pas sauver, ça ne peut pas sauver.
On passe est-ce qu'on lit pas le dernier paragraphe seulement?
Oui, peut-être, oui.
On peut lire, oui.
D'accord.
Un breton peut les comprendre, alors. Et apparemment, ça n'a pas été une circulaire, parce que c'est vraiment... Parce que certaines lettres devenaient des circulaires, c'est-à-dire qu'elles circulaient d'une église à l'autre. Et celle-là était vraiment tellement pour les Galates qu'on n'a pas trop osé, alors que l'épître aux Romains est plus recevable ailleurs. Les Galates, c'est
mais je crois qu'en fait, c'est effectivement des Gaulois qui sont partis envahir l'Anatolie ou quelque chose comme ça. Et en fait, ils ont plus ou moins été défaits, mais ils sont restés. Il y avait une colonie gauloise du côté de l'Anatolie, là-bas. Pardon ? Ben, c'est-à-dire qu'il est allé évangéliser un peu partout, de là, l'Asie mineure, et puis même donc, la Grèce, et puis bien sûr l'Europe avec Rome. Et. Enfin, Rome, c'est pas lui qui a évangélisé, c'était déjà... il est allé y remettre une couche, en fait. Mais cela dit, les Galates n'étaient pas si stupides que ça. Ils étaient stupides quand ils voulaient replacer leur confiance dans l'application de ces commandements comme si l'enjeu était vraiment là, si vous voulez. On est d'accord que c'est intéressant d'apprendre un enfant qu'il vaut mieux quand même éviter de tuer son copain. C'est quand même plutôt fâcheux. Ou même de... convoiter ce qui appartient à son prochain, ce qui est un vrai problème. Mais si on place sa confiance dans ces 613 commandements de savoir si je respecte bien le sabbat, on passe à côté justement de quelque chose de profond et de vrai qu'on aurait pu faire ce jour-là. Ou alors on s'imagine que notre dignité ou la dignité de l'homme est à mesurer en fonction de ce genre d'œuvre. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que notre confiance étant mal placée, notre vie entière est comme tordue, alors que ce qui donne la dignité, c'est entièrement par grâce, ça vient d'une dignité irréductible. En se saisissant de ça, on s'ouvre à cette dynamique d'évolution, de création qu'est Dieu, qui nous élève au-dessus de notre état d'hier. Et là, on est dans une dynamique positive, où on laisse Dieu à l'œuvre dans notre vie, alors que quand on se confie uniquement dans l'observance d'une règle, on se confie dans l'homme, en fait. Et là, on est dans une logique de la chair. En plus, la mesure de la dignité de l'homme est tordue. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le très religieux, celui qui donne bien les bonnes œuvres qui ont été décrétées, les 10% de son argent pour l'Église et tout ça, eh ben, il dit, mais moi, je suis nickel. Je suis juste. Et celui qui a du mal à tirer, il ment toujours dessous pour faire un franc, il va être méprisé, du coup. Comme moins généreux, comme moins religieux, comme et puis celui qui s'en sort pas, machin, il va être méprisé par le très religieux. Donc, vous voyez, on entre dans des difficultés aussi bien spirituelles, personnelles, de placer sa confiance dans ce qui est fondamentalement à la source de l'être, en Dieu donc, plutôt que de le placer dans des choses qui ne sont pas source de vie, voilà, pas source de supplément d'être, pas source de supplément de vie, même si par ailleurs c'est bien d'être, d'avoir une morale, de se dire il vaut mieux en général quand même ne pas travailler le dimanche et d'aller à la messe à Saint-Eustache à 11h. C'est à 11h.
1h10, ça dure. C'est à 11h.
Voilà. Donc peut-être qu'on peut lire le verset 23, parce qu'on saute ce grand paragraphe. Le verset 23 est absolument extraordinaire. À partir du verset 23, la fin de cette lettre aux Galates. Et puis on lira vite Jacques avant que ça se termine. Qu'est-ce qui peut nous lire ça
Très bien. Avant la venue de la foi, nous étions gardés en captivité sous la loi, en vue de la loi qui devait être révélée.
De la foi, parce que
la
oui,
loi qui
sinon.
Ainsi donc, la loi a été notre surveillant, en attendant le Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais, après la venue de la foi, nous ne sommes plus soumis à ce surveillant, car tous, vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous êtes tous, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham. Selon la promesse, vous êtes héritier.
Bon, c'est extraordinaire. Ça prend évidemment un relief et puis un retentissement d'autant plus fort qu'il y a eu beaucoup de débats. Je ne veux pas vous faire un dessin, mais sur précisément le fait que l'humanité soit homme et femme, et de manière eschatologique, nous annonçons qu'il n'y a plus ni homme ni femme, certes dans le royaume, mais nous annonçons quand même que le royaume est déjà un peu parmi nous. Donc je pense que c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux, d'autant plus que dans l'Église, il n'y a plus ni juif ni grec. Et puis, même si les rapports de domination existent, mais ni esclaves ni hommes libres, les églises ont contribué à réduire les servages et les esclavages. Donc, la question de l'homme et de la femme est une question qui forcément se pose. Je le dis très sérieusement, parce que tout à l'heure j'ai dit que la loi ne sauve pas, etc. Et je, personnellement, si je n'ai pas pris position, c'est parce que je pense que tout ce qui est juridique, enfin, c'est. Bon. Enfin, tout ce qui est. Uniquement exprimé en termes de requêtes juridiques n'est pas suffisamment étayé. Il faut plusieurs approches. Il faut une approche juridique, c'est évident. Il faut aussi une approche spirituelle, historique, psychologique, sociologique, théologique. Mais de fait, il y a ce mystère que... les appartenances, qu'elles soient tribales, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient sexuelles aussi, apparemment, si Saint Paul le dit, sont relativisées en Christ. Ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent, mais elles sont... Voilà. Alors,
parce que là, c'est pas marqué au futur dans l'eschatologie, c'est marqué au présent.
Tout à fait.
C'est marqué au présent.
Tout à fait. Voilà.
Mais c'est même... Je crois que c'est une question de sur le champ de la dignité, ça s'applique. En disant, voilà, un homme ne vaut pas plus qu'une femme, ni une femme plus qu'un homme, un juif ne vaut pas plus qu'un grec, ou un esclave qu'un homme libre. Au niveau de la dignité, c'est quand même... Là, je crois qu'il y a un saut absolument incroyable. Un saut incroyable, au point de vue de la dignité, nous valons absolument tous aux yeux de Dieu, et ça devrait être ainsi parmi nous, nous avons tous, finalement, la même valeur, indépendamment...
En Jésus-Christ. Parce que ça n'est pas une dignité abstraite ou idéologique, c'est une dignité qui est fondée par cet espace commun que j'évoquais tout à l'heure, cette communion avec le Christ et entre chacun de nous. Qu'on peut ignorer cette communion, on peut vivre sans la connaître, mais de fait, elle existe, elle est là, elle est inaugurée, elle est, voilà. Bon, ce que souffre l'autre ne peut pas m'être totalement étranger, même si évidemment...
Alors ça ne veut pas dire que tout est indifférencié, c'est pas ça qui est en cause.
Non.
Parce que si on est un, c'est quand même... C'est là que l'idée des membres dans le corps du Christ est intéressante. Il insiste, on n'a pas tous la même mission, la même vocation. Mais nous sommes un égaux en dignité et nous sommes faits pour être dans cette sorte, dans cette union, voilà. Ce que je relèverai aussi, c'est qu'il y a marqué, pour aller dans ton sens, et je n'avais pas fait attention tout à l'heure, mais hein, vous êtes enfant, en fait. Et le enfant, ce n'est pas au singulier, c'est-à-dire il n'y a pas marqué « toi, finalement, tu es enfant ». Vous êtes enfant ensemble, dans un sens. Hein. Et c'est ensemble que nous sommes enfants avec un S de Dieu. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Par la foi, nous sommes appelés à reconnaître que l'autre à côté, croyant ou non croyant, est enfant de Dieu, finalement. C'est aux enfants de Dieu, c'est fils, oui, si vous voulez, fils de Dieu. Vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est enfant, en fait. C'est pas ici, c'est enfant. Non, c'est
uyoy.
C'est uyoy. C'est enfant, parce qu'ils ont mis fils. Mais comme il n'y a plus ni homme ni femme, à la fin, c'est-à-dire, voilà, on est tous fils et filles, mais c'est ensemble, finalement. Hein. C'est au verset 26. Voilà, on est par la foi, vous êtes tous... enfant de Dieu en Jésus-Christ.
Et c'est dans ce paragraphe que Paul montre que la loi a une valeur transitoire. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est intéressant parce que pour un juif, la loi était un absolu. Un absolu au-dessus du temps, au-dessus de l'histoire. Et saint Paul dit tout d'un coup, Paul dit qu'elle est transitoire. Elle est liée au temps. Ça ne la discrédite pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas sainte. Mais ça veut dire... qu'elle est liée quand même à la structure historique de l'homme et qu'elle peut donc devenir caduque. En tout cas, elle peut être dépassée. C'est un grand débat. Hein. Vous savez que chez Matthieu, par exemple, Jésus dit qu'il accomplit, mais qu'il n'abolit pas et que pas un iota de la loi n'est aboli. Mais c'est pour ça que Paul va un peu plus loin parler de la loi du Christ. La loi du Christ... C'est la loi du Christ, c'est une apposition, c'est comme quand on dit la ville de Paris. Hein. Ce n'est pas un rapport de possession, ce n'est pas un génitif, c'est une apposition. La loi du Christ, c'est la loi qu'est le Christ. Le Christ est la loi. Et donc, il ne s'agit plus d'avoir une mentalité légaliste, mais il s'agit de découvrir que la loi, c'est l'écoute, c'est-à-dire l'obéissance. Obéissance et écoute, c'est la même chose hein, dans les textes. Biblique, hein, parce qu'on obéit par l'écoute. Donc c'est l'écoute du Christ, l'écoute du Verbe, l'homme à l'écoute du Verbe. Alors, transitivité de la loi, elle apparaît dans l'image du surveillant. Hein. La loi a été notre surveillant.
Notre pédagogue.
Pédagogos, c'est le pédagogue. D'autres traductions disent elle a été notre pédagogue. La loi est pédagogue, c'est-à-dire que pour un peuple qui n'a pas encore la maturité, parce que c'est ça, finalement, il y a une image très, très comment on pourrait dire, oui, très pédagogique. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter à la croissance spirituelle du peuple de Dieu. Et donc, la loi a eu une vertu pédagogique. Elle a une vertu d'accompagnement. Et on vous dit même en captivité sous la loi, parce que le pédagogue était toujours un esclave dans l'Antiquité, hein. C'était l'esclave pédagogue, c'était pas un homme libre. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas reconnu pour ses capacités intellectuelles. C'était pas l'esclave au sens barbare. L'esclave avait une place, mais il n'avait pas une maîtrise, il ne disposait pas de sa vie. Donc c'était pas un homme libre. Et de fait, quand on est sous la loi, on n'est pas non plus, parce qu'il y a une sorte d'association d'idées, il y a un glissement chez saint Paul. La loi est pédagogue, donc la loi n'est pas libre, la loi est esclave et elle rend esclave. Elle aliène. Et donc il faut se libérer. Et se libérer de quelque chose qui est sain, c'est ça qui est compliqué. Parce qu'il ne dit pas que c'est mauvais. C'est très, très, très complexe, mais c'est très beau. Parce qu'on voit bien le fait qu'il est lui-même torturé, parce qu'il est très attaché à sa religion. Bien sûr, et en même temps, il sent que quand même, voilà.
C'est pas dans cette confiance-là, dans cette foi-là,
ouais,
qu'il y a le,
ouais,
la, ouais, la source de l'existence.
Il y a une rupture à opérer.
Alors peut-être qu'il faut lire vite, en vitesse, Jacques, quand même, cet extrait de la lettre de Jacques, au chapitre 2. Qui est-ce qui va nous lire ça dans ce... Ah, merci beaucoup.
Lettre de Jacques. À quoi bon, mes frères, dire qu'on a de la foi si l'on n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle sauver dans ce cas? Si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre et pas de quoi manger tous les jours, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit », sans que vous leur donniez de quoi subsister, à quoi bon? De même, la foi qui n'aurait pas d'œuvre est morte dans son isolement. Et quelqu'un dira « Tu as de la foi, moi aussi, j'ai des œuvres. Ouvre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je tirerai de mes œuvres la preuve de ma foi. Tu crois que Dieu est un? Tu fais bien. » Les démons le croient, eux aussi, et ils frissonnent. Veux-tu te rendre compte, pauvre être, que la foi est inopérante sans les œuvres? Abraham, notre père, n'est-ce pas aux œuvres qu'il dut sa justice pour avoir mis son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi coopérait à ses œuvres, que les œuvres ont complété la foi, et que s'est réalisé le texte qui dit « Abraham eut foi en Dieu, et cela lui fut compté comme justice ». Et il reçut le nom d'ami de Dieu. Vous constatez que l'on doit sa justice aux œuvres et pas seulement à la foi. Tel fut le cas aussi pour Rahab, la prostituée. N'est-ce pas aux œuvres qu'elle dut sa justice pour avoir accueilli les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? En effet, de même que sans souffle le corps est mort, de même aussi sans œuvre la foi est morte.
Alors ça, c'est vrai que moi, je trouve que les exemples que donne Jacques sont intéressants parce que, finalement, Abraham, son acte de foi le plus emblématique, c'est quand même d'avoir accepté de sacrifier son fils. Donc c'était, dans un sens, c'était contre un commandement majeur de la loi, tu ne tueras pas. Et Rahab, la prostituée, qui est montrée en exemple ici, en exemple de foi. D'abord, elle était prostituée, ce qui n'est quand même pas tellement éthique. Et en plus, elle sauve au prix d'une trahison, finalement, et d'un mensonge, d'une dissimulation. Donc, les exemples qu'il donne sont quand même rigolos, parce qu'il montre justement quelque chose qui disqualifie la loi, dans un sens. Mmh. Il dit, la vraie œuvre, c'est une œuvre de l'esprit en nous, qui nous rend capables... d'une action hyper créatrice, originale, inattendue, qui est en dehors des sentiers balisés, qui est au-delà de la morale. C'est un dépassement, finalement, de la morale que seul peut permettre l'esprit. Mais c'est vrai qu'il fait un distinguo, et à mon avis, c'est habile, entre simplement les belles paroles... Ça ne suffit pas, ou même la confession de foi, on en parlait, c'est-à-dire le beau credo, Dieu est un, c'est la confession de foi, le credo le plus, je suis d'accord, le plus ultime finalement, hein, c'est de reconnaître cette unicité de Dieu et qu'il n'y a source de vie que dans un Dieu unique. C'est en même temps extraordinairement universel, on reconnaît que tout ce qui fait source de vie... On peut reconnaître de cette présence de Dieu, même chez un athée, qui est capable d'un bon geste. Et donc cette ouverture-là, cette confession de foi fondamentale, elle ne suffit pas, finalement.
Puisque même les démons...
Même les démons voilà. Savent confesser ça, voit. Et frissonnent, et tremblent. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est la distinction entre la croyance et la foi. C'est une distinction fondamentale, hein, vous savez, entre, pour ceux qui parlent latin, entre le fides quae creditur, finalement, la foi qui est un objet, ce en quoi je crois, la croyance, ben c'est important d'avoir des bonnes croyances, mais c'est pas ça qui fait vivre. Les démons aussi peuvent avoir des bonnes croyances. Et la fides quoi creditur, la foi qui est par laquelle je crois, qu'il y a une foi qui est relation, une foi qui est ouverture à Dieu, et c'est ça qui est fondamental et à laquelle on nous ouvre dans ces textes. Sauf que Jacques est intéressant, il dit voilà, ça suffit pas simplement d'être dans cette magnifique confiance en Dieu, il faut que ça produise des fruits, et ça aussi dans l'évangile on l'a sans arrêt, Jésus dit c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre, c'est-à-dire que vraiment quelqu'un qui est dans une vraie confiance en Dieu, qui a une vraie ouverture à Dieu, normalement il doit y avoir des fruits, c'est-à-dire qu'il doit vivre de cette compassion dont qu'il a reconnue, qu'il a sentie en Dieu. Et ça doit, du coup, comme spontanément, naturellement, ça doit produire des œuvres de justice, de compassion pour celui qui a faim et soif et froid.
Tout à fait, et on voit évidemment l'usage qu'un certain christianisme social a fait de cette lettre, hein, en tirant les choses. Beaucoup de gens disent ça, hein, moi, pour pratiquer ma foi, ou d'ailleurs ma non-foi quelquefois, parce que quelquefois le christianisme social n'est plus confessant, mais je n'ai pas besoin donc de dire le credo, mais ma pratique c'est... les œuvres associatives et de fait c'est une forme de pratique, mais quand on lit bien la lettre de Saint Jacques, on s'aperçoit que c'est un texte pour corriger les excès d'un certain paulinisme idéologique qui n'était pas celui de Paul, parce que Paul, vous l'avez vu, est toujours quand même dans la réticence. Dès qu'il dit quelque chose, il corrige, etc. Donc Saint Jacques, c'est pour corriger les excès du curseur qui n'aurait été mis que du côté de la foi, spirituel, de la grâce, voilà. Spirituel, etc. Et donc ici c'est pour rétablir, mais en fait la foi et les œuvres sont l'envers et l'avers d'une même médaille, c'est une même réalité, mais qui se donne à voir, mais on ne peut pas dissocier, on ne peut pas séparer, précisément parce que la foi en elle-même est source de vie, de vitalité, etc. Alors bien sûr, évidemment, il y a des figures historiques dans toutes les églises et dans tous les clergés, de gens qui proclamaient leur foi de manière très ostentatoire, mais dont toute la vie était un démenti, bon, évidemment. Donc cette lettre, elle sera toujours d'actualité.
C'est oui, évident. Parce que ce que tu dis, je retrouve là, finalement, quand il dit « Vous avez la foi, eh bien, moi j'ai les œuvres », mais en fait, il dit « Mais non, il faut que tout le monde ait les deux, finalement ». Et donc, il n'y a pas d'un côté ceux qui seraient dans le spirituel pur et puis d'autres qui sont chargés d'être dans le caritatif pur. Les deux sont mêlés et on le voit dans les Actes des Apôtres. Les diacres, ils sont nommés pour le service des pauvres, pour l'humanitaire finalement, le caritatif. Mais ils se dépêchent d'annoncer la parole en fait. C'est-à-dire que les deux sont complètement mélangés. L'annonce de la parole et le caritatif, ne devrait pas y avoir l'un sans l'autre et l'autre sans l'un. Alors oui, je crois que là, il dit, voilà, on reconnaît le fruit aux arbres, l'arbre aux fruits plutôt, mais dans le verset 26, il y a autre chose. En effet, de même que sans souffle, le corps est mort, de même aussi, sans œuvre, la foi est morte. C'est-à-dire que quand on pratique la compassion, je dirais, caritative, vraiment la compassion très concrète, ça nourrit aussi notre foi, ça lui donne un souffle. C'est-à-dire que notre foi est aussi au bénéfice des œuvres caritatives qu'on fait. Donc l'œuvre, elle n'est pas simplement un fruit de la foi, elle est aussi une ouverture, en fait. À travers l'autre que l'on rencontre, elle n'est pas dans cette solitude où notre foi va tourner en rond sur elle-même, sur mon petit salut, sur mon truc. Non, il y a cette ouverture, ce souffle, qui est souffle pour développer aussi notre foi, ce qui est quand même... Bon à noter. Alors oui, c'est vrai qu'il va falloir malheureusement se séparer après cette étude, cette séance sur la foi, les œuvres, l'esprit, la justification.
Oui, bravo de votre
courage.
De votre courage, plein mois de janvier. Et pas de foi sans amour. Et donc la prochaine fois, en février, ça tournera autour de cette parole extraordinaire dans Saint Jean, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc le lien entre l'agapé et la connaissance. Voilà. Et là, pour le coup, l'amour et la connaissance, c'est les deux facettes de la foi.
Donc 20 février, à Saint-Eustache. Impasse Saint-Eustache. Bon retour.
Bon retour. Oui, la semaine prochaine.
Ah oui, il y a aussi il y a deux petites annonces.
Vas-y.
La semaine prochaine, donc, c'est le 23, c'est mercredi.
C'est mercredi.
Mercredi à 20h à Saint-Eustache, il y a une célébration œcuménique pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, auquel nous sommes tous invités chaleureusement. Donc le 23 à 20h, dans Saint-Eustache.
On cherche des orthodoxes, si vous avez des idées.
Voilà. Et puis, il y a une cantate de Bach où tu parles, samedi, oui, à 18h, dans l'oratoire, une cantate de Bach, avec un moment spirituel au milieu, avec le père, donc Jérôme Prigent, qui dit un petit mot.
Et c'est...